أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. Donc le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc on a vu la première règle qui est le fait de démentir la religion, démentir Allah et son messager. Donc le fait de renier quelque chose connu d'évidence dans la religion. C'est-à-dire, en fait, pour résumer, c'est quelque chose que lui il connaît. Il sait que c'est dans la religion. Il sait que c'est dans la religion. Il l'a renié. Donc il a démenti Allah et son messager. Et si lui il savait pas du fait que lui vient d'entrer récemment à l'islam, où il a vécu dans un endroit éloigné des gens qui connaissent la religion, il ne savait pas que ça fait que c'est ainsi dans la religion, ce jugement comme l'interdiction de l'alcool, par exemple, ou de la fornication. Et qu'il l'a renié, parce que c'est une chose qu'on peut pas savoir avec la raison. Donc il sort pas de l'islam, parce que on dit ici que il a pas démenti Allah et son messager parce qu'il savait pas. يعني هنا هو في حالة أنه لا يعلم أن هذا من الدين. Donc il ne savait pas que cela fait partie de la religion. Donc il sort pas de l'islam. Mais les sujets, bien sûr, les sujets qu'on connaît avec la raison, le fait que Dieu est tout puissant, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, ces sujets-là, il n'est pas excusé s'il est renié, parce qu'on y parvient avec la raison. Et de même, ce qui fait partie des sens des fondements des deux témoignages. Ce qui fait partie de ce de sens des fondements des deux attestations de foi. S'il le renie, comme la véracité des prophètes qui sont honnêtes, véridiques, là, s'il renie, il sort de l'islam. Donc le fait que il renie le sens des fondements des témoignages, dans tous les cas, il n'y a pas d'excuse, même s'il était ignorant. Croire en la prophétie du prophète Mohammed, par exemple, là, aussi, fait partie des fondements des sens des témoignages. Voilà. Donc ça, on l'a vu. Donc sur ça, il n'y a pas d'excuse. Donc, jugement sur les paroles de mécréance. Alors, toute parole, tout acte ou toute croyance qui signifie une moquerie ou un dédain à l'égard de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses anges, des rites de la religion agréés par Allah, des signes de la religion agréés par Allah, de ses ayats, de ses lois, de sa promesse ou de sa menace est une mécréance. Voilà, ça c'est clair. Pour détailler davantage cette règle, nous disons, les savants ont classé les termes qui rendent mécréants en non explicite ou équivoque, zahir. Zahir ici, ça veut dire ce qui d'apparence c'est de la mécréance, mais il a un autre sens. Donc c'est ça. Et en explicite, clair, sarih. Le terme équivoque est celui qui a, du point de vue de la langue, deux sens ou plus, mais qui est plus proche du sens de mécréance. Il est proche, mais il n'est pas explicite. Quant au terme clair, c'est celui qui n'a, du point de vue de la langue, qu'un seul sens et qui est de la mécréance. Donc ils ont dit, celui qui prononce une parole équivoque, c'est-à-dire qui a deux sens ou plus, dont l'un vient immédiatement à l'esprit et qui est de la mécréance. Alors que l'autre sens ne vient pas immédiatement à l'esprit, dont ce cas-là, on ne le déclare pas mes crayons avant de connaître ce qu'il visait. Quant à celui qui dit une parole claire et explicite dans la mécréance, il est déclaré non-croyant, mécréant. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il visait. Il ne lui sera accepté aucune autre interprétation, sauf s'il ne connaissait pas ce sens clair, mais pensait que le sens de cette parole était tout autre. Cette expression pour lui n'aura pas alors le jugement du clair. Donc voilà, parce que lui, il comprenait pas ce que ça veut dire. Donc voilà. C'est clair? Bon, ben. Donc un exemple de cela est la parole de certaines personnes. Ils disent ma fil wujoudi illa Allah. Il n'y a dans l'existence que Allah. Ou la mawjoud illa Allah. Il n'y a ils disent il n'y a d'existant que Allah ou huwa al-kull. Il est le tout. Ces expressions sont de la mécréance claire de par leur signification dans la langue. Car leur signification est que le monde est Allah. Seulement, il y a parmi les gens qui n'en comprennent pas ce sens. Ils croient plutôt que leur signification est que Allah est celui qui domine toute chose. Donc voilà, dans le point de vue de la langue, c'est clair. Quant à ceux qui ont utilisé ces expressions pour la première fois et qui en comprennent ce sens qui est de considérer un Allah et le monde, c'est-à-dire qu'ils considèrent que Allah et le monde sont une même chose, eux deviennent non-croyants. Ceux-là étaient des athées prétendus soufis qui se réclamaient de l'islam. Ces expressions sont par la suite parvenues aux oreilles de certains du commun, sans qu'ils en connaissent le sens. Ces expressions sont parvenues aux athées des prétendus soufis à partir de certains philosophes grecs. Ensuite, depuis environ un siècle, des gens qui se réclament de la Shadhiliya, Yashrutiya, ont utilisé cette expression en croyant en leur signification qui est de la mécréance. C'est leur sens d'origine. Ceux-là, tantôt, disent que Allah est présent en toute personne et tantôt ils disent que Allah s'est uni avec les personnes. Il en est de même si quelqu'un, à cause de son ignorance du sens selon la langue, a cru que l'expression pouvait avoir deux sens, l'un d'eux étant de la mécréance et l'autre ne comportant pas de mécréance, qu'il l'avait dite en visant le sens qui n'est pas de la mécréance, dans ce cas il ne devient pas mécréant. Il pensait que c'est pas une expression claire. Il pensait qu'elle avait plusieurs sens. Donc voilà. Donc pour lui, ça n'a pas le même jugement. Contrairement à celui qui a su que l'expression est claire du point de vue de la langue, qu'il a inventé de lui-même un autre sens qu'il a visé. Et qu'il n'a pas cru au premier sens du terme. Il a seulement dit délibérément en comprenant le sens d'origine du terme. Dans ce cas, il devient mécréant. C'est comme par exemple la parole de certains imprudents qui disent, et ils disent que Dieu nous préserve, ils disent Urta Rabbika, la sœur de ton Dieu, ou la parole de certains d'autres, et ils disent Yabn Allah, ou toi fils de Dieu. Ceux-là deviennent non-croyants, bien qu'ils n'aient pas à viser le sens d'origine. Il y a une partie d'entre eux qui disent, et donc ils disent Yabn Allah, sans le ha. Ils disent Yabn Allah, sans le ha du nom de Allah. Ils comprennent de ce terme le nom Allah. Bien sûr, c'est de la mécréance, parce que lui vise Allah, même s'il le prononce mal. D'autres prononcent avec le ha, car pour eux, Allah avec ha et Allah sans ha, c'est la même chose. Nous disons au sujet de celui qui prononce la parole claire que nous considérons son cas. S'il comprend le sens ou s'il ignore et qu'il a cru que cette expression a un autre sens. S'il ignorait donc, nous ne le déclarons pas non-croyant dans ce dernier cas, mais nous lui enseignons le sens de l'expression et nous lui interdisons de la répéter. À partir de là, il est su qu'il ne convient pas de s'empresser pour la déclaration de mécréance de quelqu'un qui a prononcé une expression équivoque sans avant d'avoir pris connaissance de ce qu'il visait. Il ne convient pas non plus de s'empresser pour déclarer non-croyant celui qui dit une parole claire, surtout dans cette époque, sauf après avoir su qu'il comprend le sens de cette parole et qu'il sait qu'elle est claire. C'est pas, il pense qu'elle a plusieurs sens, du point de vue de la langue. À ce sujet, des savants hanafis et d'autres ont dit que si la parole a 70 sens, qui sont de la mécréance, et un seul qui n'est pas de la mécréance, celui qui l'a dite n'est pas déclaré mécréant, sauf s'il est su qu'il avait visé l'un des sens qui est de la mécréance. Voilà. Donc n'est pas déclaré. Des paroles proches de celles-ci sont attribuées à certains imams mujtahid tels que Abu Hanifa ou Malik. Cela n'a pas été validé comme ayant été dit par eux, mais le sens est correct, même si aucun des deux imams ne l'a dit. Donc l'expression retenue chez les plus récents des savants de jurisprudence pour la confirmation du jugement de l'apostasie, c'est leur parole. Si l'expression a des possibilités qui impliquent la mécréance, une seule possibilité qui n'implique pas la mécréance, le mufti ne le déclare non-croyant que s'il visait le sens de la mécréance. Ce qu'il vise par des possibilités, ce sont les significations. En effet, une seule expression peut avoir plus de 10 signification, comme le mot yed. Ainsi, celui qui attribue à l'yed d'Allah, s'il ne visait pas l'organe, donc, si l'on a visé l'organe, donc si celui qui attribue à l'yed d'Allah, si l'on a visé l'organe, c'est-à-dire la main, qui est celui de l'homme et d'autre que l'homme, c'est-à-dire la main, il est déclaré non-croyant, car il aura assimilé Allah à ses créatures. Quant à celui qui attribue Al-Yad en arabe, donc bien sûr à Allah, et qu'il en a visé la puissance, Al-Qudra, ou la grâce, Al-Ni'ma, ou ce qui est de cet ordre parmi les sens qui ne comprennent pas l'assimilation d'Allah avec ses créatures, alors il n'est pas déclaré non-croyant. C'est conformément à ce détail qu'est jugé celui qui explique Al-Yad attribué à Allah dans le Coran ou Al-Istiwa Al-Arsh dans le sens perceptible. Donc, qui fait partie des caractéristiques des créatures. Il en est de même pour celui qui explique Al-Maji rapporté dans le Coran dans sa parole wa ja'a rabbuka wal malaku. Par la magie, le déplacement. Donc, la magie de l'homme ou des anges, c'est-à-dire par le déplacement et le mouvement d'un endroit à un autre. Il devient mécréant. C'est clair? Par contre, celui qui prononce la parole claire de mécréance, mais qui a oublié le sens qu'il connaissait auparavant. C'est-à-dire que lorsqu'il l'a parlé, il comprenait de cette parole un sens qui ne comporte pas de mécréance. Dans ce cas-là, il ne devient pas non-croyant. En ayant oublié, donc, Donc en ayant oublié le sens qu'il connaissait auparavant, c'est-à-dire lorsqu'il a parlé, il comprenait de cette parole un sens qui ne comporte pas de mécréance. Donc alors, on a dit, ainsi, par exemple, les Arabes emploient le terme Nabi pour désigner la terre surélevée et bosselée. Donc si nous entendons quelqu'un dire As-salatu ala al-Nabi makruha, pour celui qui comprend, qui connaît l'arabe, il ne convient pas de s'empresser pour le déclarer mécréant. On l'interroge plutôt sur ce qu'il visait. En fait, on va dire, on considère ce qu'il plutôt ce qu'il visait. On considère plutôt parce que on va éviter de si on craint qu'il va dire qu'il vise la mécréance, là on l'interroge pas en fait. Donc on considère plutôt ce qu'il visait. S'il s'avère que ce qu'il visait, c'était que la prière sur la terre bosselée est déconseillée, car dans cette prière, il n'y a pas de khushur ou de crainte envers Dieu, parce qu'on n'est pas bien en équilibre, sa parole est vraie. Mais s'il s'avère que ce qu'il visait, que l'invocation en faveur du prophète Mohammed serait déconseillée, alors il devient non-croyant. Dans Al-Qamus, Al-Muhit, un grand livre de langue arabe de Fayrouz Abadi, et dans d'autres livres figure le fait que le mot An-Nabi a ces deux sens. D'autre part, il nous apparaît un autre point, le mufti n'a pas à émettre d'avis sur ces questions sans connaître la langue des gens du pays et les expressions qu'ils utilisent. Les spécialistes de jurisprudence ont dit, le mufti n'a pas à émettre d'avis concernant les termes avant de connaître la terminologie des gens du pays. Donc, employer un discours rapporté pour rapporter des paroles contraires à l'islam. En islam, si la personne veut rapporter une parole contraire à l'islam, elle doit employer le discours rapporté en disant, par exemple, l'auteur a dit ou un tel a dit telle et telle chose. De même, par écrit, en écrivant, l'auteur a dit avant de rapporter ce qui est contraire à l'islam. De même, on utilise le discours rapporté avant de mettre en marche une audio ou une vidéo dans laquelle il est évoqué des choses contraires à l'islam. Donc une audio, surtout une audio en fait, on va dire, et une vidéo qu'on sait... On ne voit pas la personne qui parle. Il n'y a pas quelque chose au début, parce que si des fois, s'il y a le nom de l'auteur au début du générique, là, c'est un discours rapporté. On voit la personne qui parle, c'est-à-dire qui parle elle-même, qui parle. C'est pas un doublage. Donc là, ça indique un discours rapporté. Une audio, on va dire. Une vidéo on va dire dans laquelle il n'y a pas ce qui indique le discours rapporté. Dans laquelle il n'y a pas ce qui indique le discours rapporté. Ça indique un discours rapporté. Hein? Ce qui indique le dans laquelle et donc il est évoqué les choses qui des choses qui contraires à l'islam. et avant d'afficher des écrits contraires à l'islam sur un écran avant de les imprimer. En disant par exemple, je montre ce que l'auteur a dit. Donc voilà un exemple. Ouais. Donc voilà, c'est un exemple. Voilà. La preuve du discours rapporté est citée dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa qalat al-yahud wa Uzayr ibn Allah, wa qalat al-Nasara al-Masih ibn Allah. Les Yahoud ont dit Uzayr, fils de Dieu, et les chrétiens ont dit le Messie, fils de Dieu. Sourate at-Tawbah. Voilà. Voilà. Donc celui qui a dit, cru ou fait ce qui est clair dans la mécréance, son témoignage avec le doute sur le jugement ne lui est pas profitable. Il lui est plutôt indispensable d'être catégorique à reconnaître qu'il est tombé dans la mécréance et de dire ensuite les témoignages avec l'intention de se décharger de cette mécréance. Il ne lui est pas profitable de faire les deux témoignages tant qu'il n'a pas abandonné la mécréance. Comme s'il a dit les deux témoignages par habitude. C'est ce qui se produit de la part de nombreuses personnes qui prononcent des paroles de mécréance sans les abandonner par la suite. C'est-à-dire sans prendre connaissance que ce sont des paroles de mécréance. Pour s'en décharger dans leur cœur, ils font les témoignages comme cela est de leur habitude et en des temps, les occasions comme l'appel à la prière, cela ne leur est d'aucune utilité parce qu'ils ne reconnaissent pas la mécréance. Donc si la personne a dit des paroles équivoques, puis a douté lequel des deux sens elle a visé, lorsqu'elle a parlé, dans ce cas-là, elle doit dire les deux témoignages par précaution, immédiatement. Et de même, si elle a appris le jugement d'une question, que c'est de la mécréance, et a douté si elle est provenue d'elle, pas. Elle doit dire les deux témoignages par précaution immédiatement. Parce qu'elle a douté. Est-ce qu'elle a fait de la mécréance ou non? Autre situation, celui qui est tombé dans une mécréance, puis lorsqu'il a appris le jugement que c'est de la mécréance, il ne s'est pas rappelé qu'il est tombé dedans. Il a prononcé les deux témoignages à son habitude, sans que cela soit dans une adoration, ils sont visés par cela les récompenses. Sans avoir présent à l'esprit que ce qui est provenu de lui avant d'avoir appris le jugement. Ensuite, après un certain temps, il s'est rappelé qu'il est tombé dans une mécréance. Il n'avait pas dit les deux témoignages pour se débarrasser de la mécréance parce il ne se rappelait pas alors qu'il est tombé. Alors son témoignage qu'il a dit par habitude lui est utile. Il ne redit pas les deux témoignages car il a abandonné la mécréance, il ne s'entête pas. Donc lui il est tombé dans une mécréance. Après il savait pas par ignorance, donc c'est pas une excuse. Il est mécréant. Après un certain temps il a appris les règles de mécréance. Il a oublié qu'il est tombé, il doutait pas, donc il n'a pas dit les témoignages. Après un certain temps, il s'est rappelé. Alors, si entre-temps il a dit les témoignages par habitude, pas par adoration, parce que l'adoration n'est pas valable de celui qui est sur la mécréance, parce qu'il est toujours sur la mécréance, en fait. Parce que il est tombé dans la mécréance, il a oublié d'être tombé dedans. Donc, le fait qu'il lui reconnaît que c'est de la mécréance. Il accepte le fait qu'il dise les deux attestations de foi, le font revenir à l'islam. Qu'il les dise sans ce n'est pas dans une adoration ni y chercher par cela les récompenses, parce que l'adoration ce n'est pas valable de lui. Mais s'il a dit les deux témoignages sans visant l'adoration, donc ça le fait revenir à l'islam, parce qu'il connaissait le jugement. De même, quelqu'un a dit les témoignages pour se débarrasser de toute mécréance au cas où il s'en serait produit de lui. Ensuite, après quelque temps, il a eu la certitude qu'il s'est produit de lui avant son témoignage une question de mécréance. Si lorsqu'il avait dit les témoignages dans l'intention de se débarrasser de la mécréance, il connaissait le jugement de cette question dont il s'est rappelé par la suite, son premier témoignage lui suffit. Sinon, il faudra dire à nouveau les témoignages pour sortir de la mécréance. Donc voilà, si il a fait une mécréance, il l'a oublié, après il a dit, il a appris que c'est de la mécréance, mais il s'est pas rappelé être tombé dedans, ni douter de cela, et il disait les deux témoignages. Sont visés. L'adoration, et ce n'est pas dans une à l'apparence d'adoration. Donc dans ce cas-là, ça le fait revenir à l'islam. Parce que lui, ils sont peut-être pas, il délaisse la mécréance. Et de même si, pareil, au lieu lui, il a fait des témoignages par précaution pour d'autres cas. Ce cas-là, il savait, mais il s'était pas rappelé être tombé dedans. Donc, son témoignage pour ce cas-là est valable aussi pour les autres cas qu'il connaissait à ce moment-là comme étant de la mécréance. Donc bien sûr, celui qui a commis la mécréance puis a dit Astaghfirullah, je demande un pardon à Allah, avant de revenir à l'islam avec les deux témoignages, cela ne lui est pas utile. Plus encore, il augmente en mécréance car il demande à être pardonné alors qu'il est sur la mécréance. Or, Allah ne pardonne pas la mécréance du non-croyant ni de ses péchés tant qu'il est sur la mécréance. Ouais, c'est valable, parce que lui, par exemple, il a douté de certaines mécréances, mais il a fait des témoignages parce qu'il doutait de certaines mécréances, mais une ou certaines mécréances, il se rappelle même pas être tombé dedans, mais il savait, il a bien compris que c'est de la mécréance. Donc le témoignage qu'il a fait pour une ou deux paroles, c'est valable pour toutes les questions de mécréance dans lesquelles il était tombé dedans et qu'il les connaissait à ce moment-là étant de la mécréance. Voilà, c'est pas là. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est pas ce sujet-là. Je parle du sujet. Lui, il est tombé dans plusieurs mécréances, mais il s'est rappelé que certains, il a douté de deux ou trois. Donc, il a fait les deux témoignages pour deux ou trois, de précaution pour deux ou trois. Et ces deux témoignages, il sera valable pour tous les autres. Parce qu'à ce moment-là, il savait que c'était de la mécréance, mais il n'a pas douté. Donc, pourquoi c'est important de savoir? Parce qu'après un certain temps, si, il se rappelle être tombé dedans, il n'a pas retémoigné. Parce qu'il sait, il a témoigné déjà par précaution et il les connaissait déjà.